française.
Latina.
La franco-latina.
Abdelhafid Amouch, bonjour. Nous sommes là à la Cité de l'immigration. La Cité de l'immigration qui édite une revue appelée Homme Immigration. Dans ce cadre-là, vous avez eu une grande mesure en charge, un dossier très particulier qui a mis face à face la réalité brésilienne et française en matière d'immigration et en matière d'altérité, en matière de regard de l'autre. C'est un dossier qui ne traite pas uniquement de ces échanges directs, pour ainsi dire, entre la France et le Brésil, mais qui, d'une certaine manière, essaye de comparer la façon dont les deux pays ont résolu ou font face à certains problèmes semblables. Quelle a été un peu votre sensation à l'arrivée au terme de cette aventure intense, j'imagine, ne serait-ce que sur le plan intellectuel ?
D'abord, merci de me donner la possibilité de parler un peu de ce numéro. Comme vous le dites, c'est un numéro un peu particulier. Pourquoi il est particulier pour moi ? Parce qu'il a permis de faire travailler, de mettre en relation des gens qui parfois se connaissent de loin, qui parfois ont des relations plus suivies. Ça veut dire que dans ce numéro, qui a été organisé comme tous les autres numéros, avec des discussions au comité de rédaction, une sélection des articles, et puis après une évaluation, etc., ça a débouché sur un travail avec des collègues au Brésil et en France, qui est, pour moi, vous me demandiez quelle était ma sensation. Ça a été ça un moment très, très important et très intéressant. Fatigant aussi. J'y reviendrai, je vous le dirai pourquoi. Mais ce qui m'a paru très bien, c'est de permettre à des gens qui sont à Fortaleza, à Rio, à Sao Paulo, dans d'autres villes brésiliennes, mais aussi en France, mais aussi en Belgique, aussi en Europe, de leur permettre parfois de dialoguer par articles interposés. Donc, un des éléments particuliers, ça a été, par exemple, pour repérer des contributeurs, des thèmes, tout ça, j'ai demandé à des collègues qui sont notamment au Musée National à Rio, qui sont à l'Université fédérale du Ceará, mais qui sont aussi à l'École des hautes études en sciences sociales, je pense au Centre de recherche sur le Brésil contemporain. Tous ces systèmes, tous ces réseaux ont contribué à leur manière à diffuser notre appel à contribution, nous ont proposé des contributeurs, et il y a eu une relation parfois assez dense. Alors je dis parfois parce que c'est pas vrai pour tout le monde. Il y a eu des gens avec qui les relations étaient plus fortes qu'avec d'autres. Et donc, il y a eu ce côté-là très intéressant au niveau humain, déjà. La dimension délicate, difficile, c'est que, vous l'aurez noté sans doute, il y a des articles écrits par des Européens et d'autres écrits par des Brésiliens. Et donc, nous avons fait le pari d'accepter, dans un premier temps, des articles aussi proposés en portugais. Et donc là, la fatigue a été liée notamment à cette double évaluation en langue française, mais d'abord en langue portugaise, avec toujours ce souci de trouver des traductions les plus proches. Bien sûr que ça demande beaucoup d'énergie, mais en même temps, je trouve que c'est ça qui est au principe de l'interculturalité. C'est-à-dire, c'est pas nier les obstacles ou les difficultés, c'est essayer de comprendre comment on peut établir des liens et puis et se donner à soi-même et aux autres la possibilité d'écrire dans sa langue et puis après de retravailler.
Je me disais, pardon, que au niveau des échanges universitaires, c'était un peu le même corvée que trouve un migrant normal qui veut appréhender la réalité de l'autre, qui n'a pas les moyens, qui ne sait pas trop bien s'exprimer, qui ne sait pas ce que l'autre lui dit, qui doit apprendre à décoder. Tout cela se fait à un autre niveau, évidemment, mais c'est un peu le même travail d'approche entre deux cultures différentes, en l'occurrence.
Absolument, et ça, je crois que vous soulevez une question importante. C'est vrai qu'il faut aussi dire que ça dépend quel type de démarche universitaire on veut faire. Quelqu'un qui veut aller à un colloque à Fortaleza, il peut être pris en charge de A jusqu'à Z. Et quelqu'un qui veut faire, enfin je parle de mon expérience, qui veut faire un travail de terrain, qui ne maîtrise pas la langue, ça veut dire déjà beaucoup de doutes à gérer. Et là, je suis tout à fait preneur de votre parallèle, c'est-à-dire, à un moment donné, on est perdu. Et là, c'est vrai qu'on n'est pas perdu comme le migrant, parce qu'on peut revenir, machin, etc. Bon, mais il y a quand même ce moment où, dans une favela, ou dans un foyer, là où j'ai été faire des entretiens, on se sent à la merci de l'autre, parce qu'on ne comprend pas tout. Quand je dis de l'autre, c'est-à-dire le collègue qui accompagne, j'ose pas dire que je me sentais infantilisé, mais c'est vrai que ça peut ramener à des expériences quand on est étranger, et que... eh bien, les choses qui semblent évidentes deviennent très compliquées et ça pose d'énormes problèmes. Donc, sous le côté humain, oui, il y a cette expérience par rapport à la pratique de recherche. Là, concernant les échanges universitaires plus largement, je serai plus prudent parce que vous avez des gens qui ont une relation très longue durée avec le Brésil ou en France. Et donc, j'ai des collègues brésiliens qui viennent, ils connaissent mieux Paris que moi. Je suis lyonnais, mais vous avez aussi des collègues français qui vont au Brésil en se sentant chez eux à Fortaleza ou parfois en étant que des passagers.
Est-ce que dans tous les bureaux où il y a des chercheurs qui d'une manière ou d'une autre partagent de deux côtés de la rive la curiosité France-Brésil, il y a forcément la photo de Claude Lévi-Strauss qui préside?
Alors, je pense que ça c'est une des raisons fondamentale du numéro. C'est bien sûr, on le dit d'emblée, on a profité, on s'est dit, ben nous aussi, il faut qu'on aide, qu'on contribue à notre manière à cette année de la France au Brésil. Mais une des idées, c'était de dire, mais au fond, les relations entre les deux pays sont très enchevêtrées, très longues, lointaines dans le temps. Et c'est vrai que dans les sciences sociales, la place de Lévi-Strauss, mais aussi de Bastide, mais aussi de Brodel, sont des places extrêmement importantes. Bien sûr que vous aurez des gens qui vous diront que selon les lieux, ça répond un peu à votre question, vous n'aurez pas nécessairement ou la référence ou la photo de Lévi-Strauss, mais vous aurez parfois la référence à des travaux plus américains, par exemple. Je pense notamment à cette tradition qu'on appelle les travaux de l'école de Chicago, c'est-à-dire un travail plus centré sur le terrain, sur l'observation, etc., qui n'accorde pas la même place que Lévi-Strauss et un certain nombre de théoriciens français à la réflexion théorique. Voyez, donc, il y a une diversité au Brésil, mais quand même, dans bon nombre d'universités, et si vous regardez les universitaires les plus âgés, il y a une trace, un lien avec la France, alors, par le biais d'auteurs qu'on vient de citer, mais aussi par le biais d'institutions comme l'École des hautes études en sciences sociales, les universités, où les collègues brésiliens sont venus faire des séjours. Et une autre des raisons, je crois, de ce numéro, c'était non seulement de pointer cette relation que vous soulignez, mais c'est aussi de complexifier. C'est-à-dire qu'on est dans des images parfois un peu stéréotypées, autant pour la France que pour le Brésil. Le Brésil serait plus tolérant, la France serait moins ceci, moins cela. L'objectif, mais comme toute revue scientifique, l'objectif, c'est de dire, attendez, regardons les situations d'un peu plus près, regardons comment ça se passe par rapport à la pauvreté, regardons comment ça se passe par rapport à la prostitution, regardons comment ça se passe par rapport à l'urbanité, etc., etc. Mais regardons, c'est pas un regard distant au mauvais sens du terme, c'est-à-dire c'est pas des chercheurs français qui regarderaient le Brésil. Je pense qu'une des originalités, alors on peut toujours mieux faire, une des originalités de ce numéro, c'est de demander aussi des regards croisés, c'est-à-dire des gens qui posent des questions sur la réalité brésilienne et qui posent des questions sur la réalité française. Et qui disent, bah tiens, l'action sur les banlieues en France, c'est ceci et cela, qu'est-ce que ça renvoie ou qu'est-ce que ça enseigne par rapport à l'action sur les espaces urbains au Brésil?
Justement, vous y êtes arrivé tout seul, parce que je voulais faire une petite parenthèse dans cette conversation sur le travail que vous avez eu de faire un peu l'édition générale. Je voulais faire un petit détour parce que vous avez écrit un papier qui s'appelle « Autorité éducative et rapport des générations ». Vous avez fait ce que vous appelez une esquisse d'une approche comparative entre la France et le Brésil, où vous avez comparé la façon de s'occuper, surtout des jeunes, avec des problèmes sociaux, des problèmes économiques d'insertion. Qu'est-ce que vous avez découvert de ce qui se ressemble ou pas dans ces deux réalités qui apparemment sont les mêmes, mais qui sont tellement distantes l'une de l'autre ?
Je mène une recherche sur deux lieux. Le premier lieu, c'est l'agglomération lyonnaise. Et le deuxième lieu, c'est la ville de Fortaleza. Et j'essaye de regarder de près la façon d'agir dans ce qu'on appelle, nous, ici, de façon maladroite, les quartiers sensibles. Ce qu'on appelle aussi les banlieues. En gros, ma question, c'est de se dire, mais comment ceux qui représentent les pouvoirs publics, qu'ils soient animateurs, qu'ils soient policiers, qu'ils soient enseignants, comment ceux qui portent la parole publique, en quelque sorte, comment ils se débrouillent sur ces quartiers-là ? Ce sont des lieux où il y a beaucoup de chômage, beaucoup de difficultés sociales plus largement, parfois de la délinquance, de la violence, etc. Donc dans ce contexte-là, sans amplifier, hein, comment ils se débrouillent ? Comment fait un enseignant ? Et ma question, c'est de ne pas essayer de comprendre ce qui se fait dans les lieux ou les moments spectaculaires. Je m'intéresse pas, par exemple, à la violence. J'essaye de voir les activités les plus quotidiennes. Et donc, mon idée, c'est de dire, mon hypothèse, comme on dit, c'est de dire, mais le rapport générationnel, c'est-à-dire le rapport entre un adulte et un jeune, c'est un rapport qui va en dire long sur la façon dont se structure l'éducation de l'enfant et de l'adolescent. Et donc, dans ce contexte particulier, j'avance l'idée qu'une des différences, c'est que l'adulte, femme ou homme, qu'il ait 30 ans ou 50 ans, etc., a appris une certaine forme d'autorité. Il l'a appris quand il était gamin, gamine. Bon. Et qu'au jour d'aujourd'hui, cette autorité qu'il met en œuvre ne peut pas être la même. Et donc, dans ma recherche, j'ai cherché à comprendre comment on passe d'une autorité apprise à une autorité exercée. Donc, et au lieu de dire c'est une bonne ou une mauvaise autorité, ça m'intéresse pas. J'essaie de voir comment ça se construit dans le temps, quelles sont les expériences significatives pour la personne, etc. etc. Et donc, sur l'enquête de terrain, sur les deux lieux, ce que je fais, c'est que je repère des situations, j'observe. Par exemple, tout bêtement, je vais au fond de la classe, dans les collèges, et je regarde, j'écoute. Et puis au fil des mois, je m'habitue à certaines choses. Et j'ai fait à peu près la même chose. Je dis à peu près parce que je n'ai pas pu faire aussi durablement. Parfois, ça a été plus intense au Brésil. En l'espace d'un mois, j'en voyais beaucoup plus. Mais donc j'ai été dans des lieux fermés, des écoles ou des centres de mineurs. J'ai été aussi dans la rue, parce que les intervenants publics, les éducateurs, les animateurs interviennent auprès des familles, auprès des gosses, etc. Et donc, ma recherche, c'était ça. C'était d'essayer d'observer comment les adultes et les enfants discutent, comment les adultes cadrent la relation, comment ils imposent un certain nombre d'activités, comment ils obtiennent l'adhésion des enfants. Donc, il y a une partie observation, mais il y a une autre partie avec des entretiens pour essayer de comprendre l'histoire des personnes, en disant, mais qu'est-ce que c'était quand vous étiez gosse, etc., etc. Donc, ça a été passionnant. Alors, vous me disiez quels étaient les points de ressemblance et les points de différence. Ben, les points de ressemblance, c'est assez frappant. C'est, je vais le dire de façon un peu générale, hein, c'est la volonté de convaincre. La volonté de convaincre. C'est-à-dire que ce soit au Brésil, je pense un peu plus fortement, ou en France, vous avez peu de gens qui considèrent l'autorité comme un exercice d'imposition. Il ne s'agit pas simplement de dire au gosse, tais-toi, au point à la ligne. De part et d'autre, il y a toujours cette idée de légitimer par l'argument. C'est-à-dire, il faut convaincre. Voyez. Alors au Brésil, ils vont vous dire, ils vont employer une expression, ils vont dire, non, le jeune, il faut le conquérir. En France, on ne le dira pas de la même façon. Hein. Donc en France, les parcours sont différents. Quand je dis les parcours entre les enseignants et les travailleurs sociaux, vous avez des enseignants et des travailleurs sociaux qui ont des filières classiques, ils ont fait une formation, bon, et vous en avez d'autres qui viennent du milieu, comme on dit. Hein. Au Brésil, il y a moins de gens qui ont des formations classiques et beaucoup plus de gens qui ont des parcours très difficiles. Vous avez, par exemple, plus de gens au Brésil actuellement, dans les centres sociaux où j'ai été visité, qui ont été eux-mêmes des enfants de la rue et qui, maintenant, deviennent éducateurs sociaux. D'accord. Donc vous avez cette différence. La différence aussi qui est peut-être plus nette, c'est que les gens au Brésil, celles et ceux que j'ai rencontrés, ont connu des histoires de vie plus chaotiques. Alors, une autre différence, elle tient aux formations. Je ne veux pas m'étendre trop, mais les formations en France sont instituées, elles sont cadrées. Au Brésil, dans le secteur que j'ai essayé d'étudier, c'est-à-dire le secteur qui permet d'intervenir auprès des jeunes, je ne parle pas que de l'école, hein, plus largement, là, il y a des formations qui sont en train de se mettre en place. Hein, d'accord ? Sur la relation elle-même, j'ai vu des écoles, comment dire, la relation est en tension de part et d'autre. Je vous dirais que la différence la plus frappante pour moi au Brésil, c'est, avec les enfants les plus jeunes, c'est cette relation affective très exprimée. C'est-à-dire que, si vous voulez, vous avez des enfants qui disent à l'éducateur ou à l'éducatrice « tonton, tata », par exemple. Ça, vous ne l'entendrez pas en France. Vous avez une façon de tenter de négocier qui est peut-être plus visible au Brésil qu'en France. Quelque chose qui m'a frappé, c'est l'encadrement. Au Brésil, sur des activités, je ne parle pas de l'école, des activités socioculturelles, par exemple, pour 8 gamins, vous avez 4 adultes. En France, vous aurez 2 adultes pour une dizaine de gamins. Donc, en même temps, ils disent ne pas craindre les débordements de violence, mais en même temps, il y a un encadrement beaucoup plus étoffé qu'en France. Alors, est-ce que c'est parce que les salaires sont plus bas ? Ça, c'est possible. Est-ce que c'est aussi une conception de l'encadrement qui est différente ? C'est encore possible. Mais il y a une chose qui est assez remarquable, c'est que certains établissements scolaires ou autres ont à l'entrée un gardien qui est armé. Là, on ne voit pas ça en France, ça c'est bon. Et ceux que j'ai interrogés ont tendance à minorer en disant non, mais ce n'est pas si grave que ça. Mais voilà, c'est quand même impressionnant de voir ça à l'entrée. Sinon, dernier point pour, là cette fois-ci, pour l'école. J'ai vu des situations très dégradées au Brésil. Dans l'école publique, je pense que là, il n'y a pas les moyens. Et donc, j'ai vu des enseignants débordés. Débordé, c'est-à-dire j'ai vu les sacs qui se baladaient dans la classe, etc. Mais j'ai vu aussi, vous voyez, je complexifie, hein, mais j'ai vu aussi des situations où le prof, à peu près des mêmes âges au Brésil et en France, avait le même sens tactique. C'est-à-dire que, si vous voulez, ce qui est très frappant, c'est que ce soit au Brésil, à Fortaleza ou à Lyon, le prof va se balader en permanence dans la salle. Il est en permanence en train de calmer, de réguler, voyez, c'est-à-dire il n'y a pas de silence stabilisé, il n'y a pas d'ordre stabilisé en quelque sorte, hein. Et en permanence, il faut que l'enseignant rappelle à l'ordre tout en continuant à faire son cours. Et ce genre de pratique, c'est-à-dire cette façon d'occuper l'espace de la classe et cette façon d'être proche du corps de l'élève, je le retrouve de façon quasi identique au Brésil comme en France.
Ces jeunes que vous avez observés au Brésil, ce sont des jeunes qu'on peut dire brésiliens à part entière, brésiliens de toujours. Et tandis qu'en France, on trouve souvent un problème d'intégration, je ne vais pas dire d'identité nationale. Est-ce que ça fait une différence dans la façon de s'installer de ces jeunes dans leur espace, dans la société ?
Je vous répondrai que partiellement, parce que cet aspect-là, je ne l'ai pas encore travaillé, mais je vais quand même vous dire ce qui m'a frappé. Parce qu'au départ, quand même, il y avait cette question, vous disiez. C'est-à-dire, je me disais, mais comment faire pour réfléchir en France à la situation des banlieues sans me focaliser sur les situations migratoires, sans m'enfermer là-dedans, mais sans ignorer non plus ce qui peut être éventuellement spécifique. Et je me suis dit, bah, peut-être que le Brésil m'aidera. Je fais un détour, bon. Et je ne sais pas si le Brésil m'aide, mais ce qui a été très frappant, c'est que là, il n'y a pas une frontière ethnique à Fortaleza, mais une frontière par la pauvreté. Et si vous voulez, il y a une sorte de crainte, je crois que je commence mon article par ça, en disant la relation aux jeunes. On ne sait pas toujours ce qu'on met derrière le mot jeune, mais en gros, c'est un peu l'âge, mais c'est aussi le profil, hein. Eh ben, les jeunes qui viennent de la banlieue Oui, on les suppose lointains, on les craint un peu, parce qu'ils sont bruyants, parce qu'ils n'ont pas les mêmes civilités que nous, entre guillemets. Mais c'est vrai qu'on a une sorte d'argumentaire, un argument qui vient spontanément à la tête, qui vient trop spontanément à la tête, qui n'est pas pertinent, c'est de dire, oui, mais banlieue égale immigration. Vous voyez bon. Eh bien, ça ne peut pas tenir au Brésil. Mais vous avez la même peur. Vous avez la même peur, c'est-à-dire que quand on voit des jeunes... Quand on voit, enfin, là où je me suis promené avec des gens, ce qu'on dit au Brésil, les classes moyennes, c'est-à-dire des gens qui sont installés dans la consommation, installés dans le salariat, ça ne veut pas dire confortablement installés, mais installés quand même. Eh bien, le rapport aux gens plus pauvres, les gens qui sont dans l'aléatoire, dans le non-sédentaire au sens classique du terme, c'est-à-dire dans des maisons pas terribles, etc., il y a de la peur. Il y a de la peur. Et moi, je pense que là, je vous dis, hein, je n'ai pas encore travaillé vraiment cette question, mais je pense que c'est ça qui effraie. C'est cette distance, c'est-à-dire on n'a pas le même rapport au bruit, on n'a pas le même rapport à l'hygiène, on n'a pas le même rapport à l'habitat, etc., etc. Et donc, d'une certaine manière, pour moi, les enfants des favelas, quand ils apparaissent et qu'ils sont reconnus comme tels, ils effraient comme les jeunes, comme on dit, issus de l'immigration.
Est-ce que, pour finir, vous auriez envie que ces travaux énormes que vous avez fait consacrés donc aux migrations et au rapport à l'altérité en France, au Brésil, aident un peu de deux côtés à éloigner chez les gens qui sont nés quelque part, comme on dit, à avoir moins peur de l'autre?
Absolument, c'est une belle question là, que vous me posez, parce que, évidemment, j'essaye d'être le plus rigoureux possible, de respecter les exigences de mon métier, mais en même temps, il y a un engagement civique. Et dans mon esprit, si ce genre de numéro peut aider à complexifier, j'en serais ravi. Quand je dis complexifier, ça veut dire qu'il ne s'agit pas d'imaginer qu'il n'y a pas d'obstacle. Il s'agit de se donner les moyens de les approcher, et il s'agit de se donner les moyens de formuler les choses, pas pour fixer les distances, mais pour essayer de comprendre, je disais tout à l'heure, le bruit, c'est essayer de comprendre comment un rapport au bruit s'est fabriqué dans le temps, c'est-à-dire comment on a été éduqués les uns les autres, et non pas supposer que l'autre est barbare et que moi je suis d'un. Donc si ce genre de travail permet de voir comment le rapport à la beauté, c'est un des thèmes qui est abordé dans le... comment le rapport à la ville, l'appropriation des espaces... Si ça permet, ces réflexions, si ça permet de voir un peu plus comment ça se fabrique, ces distances, et si ça permet de réfléchir pour les dépasser, j'en suis ravi. Il ne s'agit pas d'imaginer un monde qui serait uniforme, hein, pas du tout. C'est comment, vraiment je pense que c'est le grand thème de notre temps, c'est, et là-dessus on n'en a pas parlé, mais c'est aussi un élément extraordinaire entre le Brésil et la France, c'est pas les deux seuls pays, mais leur rapport à la colonisation est totalement différent. Et aujourd'hui, c'est comment apprendre à définir et à vivre la différence sans avoir dans la tête d'emblée une hiérarchisation. Je suis le meilleur ou le moins bon, etc. Et d'une certaine manière, un numéro comme ça, j'espère que ça contribuera à aller dans ce sens.
Abdelhafid Amouche, je vous remercie. Je rappelle que vous avez été le rédacteur, le coordinateur général de ces numéros spéciaux de la revue Homme et Migration, consacré au rapport France-Brésil sous l'angle des migrations et de l'altérité. Encore une fois, merci. Obrigado.
Obrigado et merci à vous pour votre accueil. Merci encore.
Française.
Latina.
La Franco-Latina.